Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien, que vous allez bien. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, c'est Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. L'an passé, Joanne Leduc et Sylvie Leguerrier lançaient la toute première édition du Salon de l'autisme TSA du Québec et elles espéraient à ce moment-là recevoir 2000 visiteurs, mais ce sont plus de 3500 personnes qui sont passées par le Cosmodôme de Laval pendant les trois jours l'an passé du salon. Est-ce que ça dénote un besoin criant en ce qui a trait à l'autisme, à une meilleure connaissance, ou encore c'est une curiosité? On le sait plus ou moins, on l'apprendra peut-être tout à l'heure parce que Joanne Leduc, cofondatrice et présidente du Salon, sera là parce que c'est la deuxième édition du Salon de l'autisme qui débute demain. Un moment privilégié, justement, comme je le disais, de parler de plein de sujets d'intérêt liés aux troubles du spectre de l'autisme pour les familles, pour les enfants touchés et également pour les professionnels de la santé. Donc, ce sera un plaisir de parler avec Madame Leduc tout à l'heure. Et puis d'abord, aujourd'hui, vous rappelez que l'on souligne aujourd'hui, assez bon pour la santé, la Journée internationale des personnes âgées. Et on profite de l'occasion pour traiter de ce sujet qui est très complexe. Vous allez l'entendre, le découvrir aussi, très sensible, qui est l'âgisme. On va tenter de mieux comprendre les causes, les conséquences. L'âgisme, c'est de la discrimination qui est basée sur l'âge. Et tout ça avec Sébastien Richard, chargé de cours en sociologie du vieillissement à l'Université de Montréal, et Marie-Laurence Paré, chargée de projet aux événements à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour Sébastien, bonjour Marie-Laurence.
Bonjour.
Merci d'être là. Aujourd'hui, Journée internationale des personnes âgées, une façon, un moment pour souligner l'apport des personnes âgées à notre société. Aussi, un moment de livrer de l'information. Et c'est ce que vous ferez, Sébastien, aujourd'hui, lors de cette conférence à 16h30 du côté de l'IUGM, discrimination et aînés. Et ce qui m'intriguait, c'est qu'il y aura la présence, lors de cette conférence, de jeunes du secondaire. Pourquoi la présence de ce jeune public? Est-ce que c'est une façon de les informer sur ce phénomène ou de faire un parallèle avec l'intimidation qu'ils peuvent aussi subir?
Alors, ce qui est intéressant dans le phénomène de l'âgisme, c'est qu'en fait, ça oppose deux groupes d'âge, généralement, et principalement les jeunes versus les personnes âgées. Donc, ce qu'on cherchait aussi à faire avec la conférence, c'est à justement pas polariser cette opposition-là et essayer de regrouper les deux groupes d'âge pour discuter. Et donc, j'ai envoyé des questionnaires, des questions pour les jeunes du secondaire, pour qu'ils se préparent justement à cette conférence-là. Ils vont m'aider pendant le déroulement de la conférence, en intervenant à des moments spécifiques, en fait, pour justement répondre aux questions qui concernent l'âgisme. Puisque, encore une fois, les discriminations, ça va dans les deux sens. Ça peut être pour les jeunes par rapport aux plus aînés et inversement.
Ouais. Et ce qui est intéressant dans tout ça, Marie-Laurence, je pense, c'est qu'ils avaient un réel intérêt, ces jeunes-là, à participer à cette discussion-là et à comprendre mieux ce phénomène.
Oui, on a invité des jeunes, donc des collèges avoisinants, dont ceux du Collège Notre-Dame, qui connaissent déjà très bien l'IUGM. Certains des jeunes qui vont être là cet après-midi ont fait jusqu'à une trentaine d'heures de bénévolat déjà avec les résidents. Donc, ce contact-là avec les personnes âgées, peut-être plus spécifiquement avec des gens âgés qui sont dans leurs dernières années de vie. Alors, c'est déjà une familiarité, il y a déjà des liens qui se sont créés. Donc, ça va être chouette de les entendre sur le sujet qu'ils connaissent déjà bien à travers des personnes qu'ils ont rencontrées chez nous.
L'intimidation, ben, en fait, plutôt l'âgisme. Est-ce qu'on peut dire l'intimidation envers les personnes âgées, Sébastien?
Ben, on pourrait plutôt parler de discrimination. C'est plus juste que de parler d'intimidation. L'âgisme, de manière générale, c'est une toute forme de discrimination qui, à partir de l'âge, amène justement à exclure, à choisir finalement de discriminer les personnes à partir de leur âge. En fait.
Et bon, ça peut venir des plus jeunes envers les aînés. Est-ce que ça peut venir des aînés entre eux?
Bien sûr, parce qu'un des problèmes, en fait, quand on travaille sur l'âgisme, c'est de se rendre compte que le groupe d'âge des aînés est très large. C'est-à-dire que vous pouvez entrer dans la catégorie des aînés, notamment au niveau statistique, à partir de 55 ans. Et vous pouvez vivre au-delà de 90 ans et être toujours considéré évidemment comme un aîné. Donc on a une plage de temps qui va de 30 à 40 ans. Et il y a évidemment des conditions très différentes quand vous avez 55 ans et quand vous avez 95 ans.
Ouais.
Donc au sein même de la catégorie des aînés, il y a des oppositions évidemment.
Et j'ai l'impression que le danger avec l'âgisme, c'est que parfois on entend des bribes, peut-être que nous-mêmes, parfois on en fait, mais on ne s'en rend pas compte. J'ai un exemple très, très concret d'une collègue à un moment donné qui parlait de la patronne, tu sais, en disant « Ah oui, mais peut-être que la gestion du stress pour elle, c'est plus difficile parce qu'elle a cet âge-là. » Puis bon, ouais, OK. Mais avec du recul, est-ce que c'est une façon d'exprimer de l'âgisme, de quelque chose qui semble hyper banal, mais qui peut-être frôle l'âgisme?
C'est un bon exemple, effectivement, puisque dans tout ce qui concerne l'âgisme en milieu professionnel, on a souvent tendance à attribuer justement à des personnes qui vont sur leur cinquantaine, 55, 60 ans, des caractéristiques qui touchent notamment au déclin au niveau cognitif, à l'absence de performance, à incapacité à résister au stress, incapacité également finalement à s'adapter à des nouvelles conditions de travail où là il y a des pressions qui viennent au niveau de la hiérarchie, ce qui dans les faits au niveau des études n'est pas du tout vérifié. Donc c'est une construction
ben oui,
sociale
voilà.
En fait, ça n'a pas de véracité, de vérité.
Si oui. Marie-Laurence, vous travaillez du côté de l'IUGM, peut-il y avoir de l'âgisme des spécialistes de la santé envers leurs patients?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je ne suis pas au
cœur
au jour
même
le jour.
Des consultations.
C'est ça,
mais
exact.
Est-ce que c'est une préoccupation?
C'est une préoccupation. Puis, pour avoir déjà entendu M. Richard donc dans d'autres circonstances, je me rendais compte que même moi, qui travaille dans ce milieu-là, je peux être tentée, justement, sans m'en rendre compte, de faire preuve d'âgisme et des fois même de façon positive. Ça, c'était peut-être ce qui avait de plus surprenant en ayant des fois une volonté un peu de surprotéger les gens et tout ça.
Ah oui.
Voilà, et ça peut être une forme aussi de discrimination où on va mettre ces gens-là dans une petite ouate, puis ça peut se faire avec toutes sortes de clientèle, on va dire, qui ont des fois un petit peu plus de vulnérabilité, où on va moins prendre en compte aussi, peut-être, ah, ben, elle dit ça, mais voilà, elle est un petit peu plus elle est un petit peu plus vieille, donc faut pas s'en faire. On va faire taire madame ou monsieur. Donc, il peut y avoir ça. Mais je dis pas que, par contre, dans les consultations et tout ça, c'est là. Je pense qu'on a la chance d'avoir une équipe vraiment multidisciplinaire, des gens qui travaillent tous ensemble, qui ont vraiment à cœur les personnes âgées. Et c'est le seul institut comme ça qui est spécialisé.
Ouais.
Alors, au Québec, on a vraiment cette chance-là d'avoir tout le monde qui est réuni dans un même, je dirais, hôpital, CHSLD et à la fois centre de recherche. Donc,
voilà.
On a des experts aussi qui nous allument sur plein de sujets. C'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers le Centre Avantage, donc de faire connaître tous ces sujets-là, toutes ces recherches-là qui sont faites. Parce que moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que plus on s'informe, plus on connaît la clientèle, mieux on est capable d'y répondre et plus on est attentif justement à cette discrimination-là. Il y a toutes sortes d'autres discriminations qu'on pourrait faire, parce qu'il y a l'âgisme, mais il y a d'autres choses aussi.
Discrimination, on le disait, pas toujours négative. Est-ce que ça peut être positif, Sébastien?
Oui, il y a des formes de discrimination positive. La naissance même de la retraite, en fait, est une forme de discrimination positive, puisqu'on a récompensé d'une certaine manière les personnes qui travaillaient depuis 30, 40, 50 ans, en leur offrant la possibilité justement de profiter, sur une période de temps donnée, d'un minimum vieillesse qui leur permettait d'assurer le minimum vital pour leur vieux jour, en fait. Donc, c'est une forme de discrimination positive qui a été créée. Il y en a beaucoup d'autres. On peut prendre un exemple très concret. Vous êtes dans le métro. Vous êtes assis, vous voyez quelqu'un que vous considérez comme une personne âgée rentrée, vous lui cédez sa place, ça peut être considéré comme une forme de discrimination positive.
Et est-ce qu'il faudrait valoriser, continuer à valoriser ces comportements-là?
Ben, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que le problème de l'âgisme de manière générale, c'est que c'est basé sur les stéréotypes qu'on a sur les personnes âgées. Donc ça peut être des stéréotypes positifs, on peut associer par exemple les personnes âgées avec la sagesse, avec l'idée de transmettre quelque chose aux autres générations. Mais on peut également aussi aller vers des stéréotypes beaucoup plus négatifs. On peut les considérer comme incompétents, on peut les considérer comme trop conservateurs. Et donc tout ça va nous amener à discriminer dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est compliqué d'une certaine manière de favoriser une discrimination positive uniquement en laissant faire la discrimination négative.
Et j'imagine que c'est quasi impossible de complètement laisser de côté la discrimination. Il y en aura toujours d'une façon ou d'une autre.
C'est très compliqué puisque le processus même d'évaluation finalement de qui on est dans la société, ça c'est basé sur la logique de catégorisation sociale, on va toujours chercher à associer une personne à un groupe d'âge, à un sexe, à une race, etc. Et donc on a tendance à faire le tri, c'est un phénomène de triage en fait des individus. Et on peut lutter effectivement contre les phénomènes de tri, qui créent de la discrimination. Ça, c'est évident. C'est l'objectif d'ailleurs des politiques qui sont mises en place pour lutter contre l'ageisme.
Et l'une des bonnes façons peut-être de lutter contre ces préjugés, et Marie-Laurence le disait bien, c'est dans la livraison de l'information. Est-ce que ça peut être une façon de contrer l'ageisme?
Je serais tentée de dire oui. Et dans le cadre de la conférence de M. Richard, en plus, cette semaine, et on le fait dans le cadre de nos autres conférences aussi, mais plus spécialement quand on dit une conférence débat, c'est qu'on va informer, mais on va donner aussi la parole aux gens qui sont dans la salle. Les jeunes, bien sûr, mais les gens âgés aussi. Puis on le sait, quand on donne la parole, une autre façon de le faire, les gens ont des choses à dire, ont des points de vue. Et ça, c'est une autre façon de le faire. Puis je dirais aussi l'empowerment, donc le mot anglais, mais de redonner le pouvoir aux gens âgés. Et ça, on essaie de le faire beaucoup à travers ce qu'on fait dans le Centre de promotion de la santé Avantage que je représente aussi aujourd'hui. Donc, en donnant de l'information à travers des conférences, des formations, des ateliers. Il y a des publications aussi qui s'en viennent. Donc, on dit aux personnes âgées, venez vous informer, venez reprendre, c'est ça, le pouvoir sur votre vieillissement le plus possible pour sentir que vous avez entre les mains le plus possible le contrôle sur ce qui se passe, sachant que, le vieillissement, comme disait M. Richard, c'est large. Donc, on reçoit des gens, nous aussi, de 55 ans jusqu'à 85 ans et plus, et on essaye de s'adapter à toutes sortes de sujets et de préoccupations.
À leurs besoins.
Oui, voilà. Oui. Donc, c'est autant des sujets comme la santé, que le travail sur le côté plus affectif. Puis là, on parle de discrimination cette fois-ci. Donc, on essaie vraiment aussi de rallier large sur les sujets où on informe les gens.
Une façon de redonner le pouvoir, je me demande si c'est pas aussi de passer par la valorisation de leur rapport à la société. Je le disais un petit peu tout à l'heure. Et ce pont-là que vous ferez tout à l'heure à 16h30 lors de la conférence, c'est-à-dire la cohabitation entre la jeunesse, des jeunes secondaires et des personnes plus âgées. Est-ce que c'est une façon aussi de revaloriser, oui, le contact et toujours leur rapport, leur présence qui est importante dans notre société?
C'est une piste extrêmement intéressante pour nous, effectivement, pour essayer justement de décloisonner les rapports entre générations. Là, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à mettre les personnes âgées ensemble, faire des activités qui concernent simplement les personnes âgées, faire des activités qui concernent uniquement les jeunes. En mettant ensemble les générations, on évite en fait de les polariser. Et donc, on se rend compte que, par exemple, une personne âgée a autant à apporter à un jeune que l'inverse, en fait. Donc, on a différentes formes d'expérimentation sociale qui existent, notamment par rapport aux nouvelles technologies, qui est un peu plus mon domaine de recherche. On va, par exemple, essayer de coupler un jeune qui va apprendre à utiliser Internet à une personne âgée. On va essayer justement de mettre de l'avant ces rapports-là pour éviter l'opposition entre les générations.
Il y a ce genre de projet-là aussi à l'Institut, plus spécialement avec les résidents. Et on entend aussi, moi j'entends dans le centre, donc les gens demandent d'être en lien avec les jeunes. Ils veulent pas rester nécessairement entre eux, même au contraire, ça va vraiment dans ce sens-là. C'est très valorisant pour eux de part et d'autre.
À quand de la Zumba, Marie-Laurence, entre jeunes et personnes plus âgées?
Pourquoi pas? Déjà, on va donner des cours de Zumba cette session-ci.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que, pourquoi pas, ça peut être super intéressant.
Ça peut être assez amusant. Ouais,
bonne
idée. Le temps file à vive allure. Je veux juste revenir pour... Bon, on va devoir clore, malheureusement, cette discussion. Elle est vaste. On disait discrimination, c'est vaste. Le vieillissement, c'est vaste. Mais des pistes un petit peu plus concrètes, Sébastien, pour les gens qui nous écoutent et qui disent, OK, moi, est-ce que j'en fais de la discrimination envers les aînés? Est-ce que mon frère, ma sœur, mon patron en fait? Et comment je peux tenter de minimiser par des actions simples ce comportement-là?
En fait, on fait tous de la discrimination à différentes échelles. Avec notre famille, avec nos parents, on a tendance effectivement à les surprotéger, un peu comme à les materner comme eux, ils nous maternaient quand on était enfant.
Ouais.
Dans les milieux de travail aussi, on va avoir beaucoup de formes de discrimination basées sur l'âge. On va avoir tendance effectivement à mettre un peu au placard les personnes un peu plus âgées et à laisser au poste à compétence et à responsabilité des personnes plus jeunes. Donc les pistes de solution, elles sont simples. En fait, il faut qu'on change notre représentation de la vieillesse et du vieillissement pour comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre les générations. On est dans un parcours de vie linéaire où finalement, être jeune et être vieux, c'est juste un continuum. Ce n'est pas une rupture en fait, entre les deux.
Et de rappeler toujours l'importance de cette cohabitation-là. Et c'est ce que vous allez souligner au cours de la conférence tout à l'heure à 16h30, je le rappelle. Marie-Laurence, en terminant, vous lancez très, très bientôt les activités du Centre Avantage. Là, c'est-à-dire que certaines ont déjà commencé,
oui.
Mais il y aura des cours, on disait, de la Zumba tout à l'heure. Ça commence le 5 octobre.
Voilà. Donc, les conférences ont déjà commencé. On a fait le lancement le 21 septembre dernier, mais nos formations et nos ateliers débutent tout au long du mois d'octobre. Donc, c'est vrai que les formations, c'est le 5, mais certains ateliers, donc je lance une invitation plus spéciale aux gens qui nous écoutent, tablettes électroniques, entre autres, et activités physique, c'est des séances une à deux fois. On peut venir donc se renseigner sur des sujets plus pointus comme ceux-là. Et tous les détails sont sur notre site Internet, donc je vais donner iugm.qc.ca/avantage. Et pour les gens qui veulent nous donner un petit coup de fil, 514-340-2800, poste 3139. Si vous avez l'occasion d'être avec nous à 16h30 aujourd'hui, on va refaire un tour aussi de la programmation pour vous redonner donc le nombre de places qui restent dans chacun de nos ateliers et nos formations. Vraiment, on invite les gens à être avec nous. Et moi, j'ai envie de dire vraiment une bonne journée internationale des personnes âgées.
Oui, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on est réunis. Évidemment, on rappelle que la conférence, elle est gratuite, sans inscription.
Oui.
Donc, c'est ouvert, là. On essaie de remplir la place.
Exactement.
Sébastien Richard, chargé de cours en sociologie du vieillissement à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Marie-Laurence Paré, chargée de projet aux événements à l'IUGM. Merci à vous deux beaucoup.
Merci.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour, Joanne Leduc.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, vous-même.
Oui, bien, fébrile, nerveuse, enthousiaste.
Et oui, évidemment, tout ça.
Oui, parce que je le rappelle, vous êtes cofondatrice et présidente du Salon de l'autisme TSA du Québec. On est à la veille de la deuxième édition. Et l'an passé, je le disais tout à l'heure, Joanne, je le disais en introduction, l'an passé, vous et Sylvie Le Guerrier, l'autre cofondatrice du Salon, attendaient 2000 personnes et 3500 personnes ont foulé le plancher du Cosmodôme de Laval. Cette année, est-ce que les attentes sont les mêmes, encore plus élevées?
Oui, évidemment, c'était une belle surprise l'an passé. Donc, cette année, on s'attend tout de moins l'équivalent, mais c'est sûr qu'on souhaite plus, toujours, pour qu'il y ait encore plus de gens informés et qu'il y ait encore plus de gens heureux une fois sortis du salon. Nous, le but, c'est essentiellement de donner des ressources aux familles et aux personnes TSA. Donc, oui, on vise le 5 000 cette année.
Mm-hmm.
On est prêt pour 5 000. Donc, est-ce que ce sera plus? Je nous le souhaite.
Être informé, être heureux, c'est ce que vous venez de dire, Joanne Leduc. Est-ce que c'est ce qui explique le grand succès du Salon de l'autisme?
Mais le salon, on l'a bâti de façon à ce que les gens, un, s'amusent aussi. On l'a bâti sans prétention, c'est-à-dire que pour nous, c'est important que ce soit festif, tout comme instructif. C'est un salon neutre, sans jugement. Ça, je m'explique là-dessus, c'est que On n'est pas là, nous, pour décider de ce qui est bien ou pas en autisme au Québec présentement. Tant et aussi longtemps que ce ne sera pas régi officiellement que telle ou telle méthode ou telle chose fonctionne et non pas les autres. Pour nous, il y a de la place à tout ce monde-là dans le salon. C'est aux visiteurs, aux familles, après ça, à prendre une décision éclairée. Nous, la mission, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. C'est pour ça qu'on travaille si fort durant toute l'année, là.
Bon, neutre et sans jugement, donc vous le dites, vous n'êtes pas là pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas. En même temps, il y aura plus de 125 exposants au Cosmodôme de Laval à partir de demain, et ce, je le rappelle, jusqu'au 4 octobre. 40 conférenciers, vous les choisissez comment? Est-ce qu'il doit y avoir une certaine rigueur?
Oui, au niveau des conférenciers, on est plus strict quand même. Disons que c'est la même rigueur pour les conférenciers et les exposants. Par exemple, les conférenciers, nous, cette année, on s'était dit un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de parents, un tiers de professionnels et un tiers de personnes TSA qui arrivent. C'est pas nécessairement exactement mathématiquement ça. C'est aussi selon les offres qu'on reçoit. Certaines personnes, on va les chercher parce que nous, pour nous, c'est important qu'elles soient là cette année. Mais il y en a d'autres que ça arrive de soi et j'ai absolument pas la prétention de dire que je connais tout ce qui se fait en autisme au Québec. J'ai toujours de belles surprises à chaque semaine, à chaque jour. Moi aussi, je découvre ces personnes-là. Et je me sers personnellement en tant que maman de deux enfants autistes. Donc là-dessus, moi aussi, j'ai mon choix à faire. Pour les exposants, mais on s'assure évidemment qu'il y a une certaine crédibilité. Mais comme je vous dis, ce n'est pas non plus à moi à décider que ce service-là est meilleur qu'un autre. Nous, on l'offre. De toute façon, ces gens-là, ils sont sur le marché, tous un à côté de l'autre. Ils doivent offrir des choses différentes s'ils veulent se différencier des autres. La vie est ainsi faite. Donc, c'est juste qu'on offre la possibilité aux parents, au lieu de passer des heures à chercher quelque chose sur Internet, un service ou quoi que ce soit, des produits, bien, ils ont tout en main en venant au salon à un seul endroit. Donc, c'est beaucoup plus facile là, d'aller chercher de l'information puis de rencontrer des humains au lieu de parler à des machines puis des répondeurs comme on a plus l'habitude dernièrement.
Oui. Mais j'ai l'impression que l'un des effets très bénéfiques du salon pour les parents, pour les familles notamment, c'est de rencontrer d'autres familles qui vivent les mêmes réalités.
Mais oui, parce que dans le fond, ces gens-là, on parle d'autisme pendant 3 jours, durant ce vendredi, samedi, dimanche-là. Donc, c'est forcément de ça qu'on va parler aussi dans la cafétéria. Il y a des échanges de téléphone, il y a des gros câlins qui se font. Ça sert à ça aussi. Et pourquoi pas, on a été isolés pendant des années. Il est temps qu'on se côtoie. Et ça fait un bien immense ça fait la différence entre de se creuser en tant que parent ou de s'ouvrir à tout ce qui se fait aussi et de rencontrer les autres, de voir qu'on n'est pas seul. C'est vraiment important pour certaines familles pour ne pas sombrer dans la dépression et un parent qui déprime, c'est vraiment la dernière chose, ou en burn-out, c'est la dernière chose qu'on veut dans ces familles-là parce que tout s'écroule.
Oui. Bon, le salon s'adresse à des familles, on le mentionne depuis tout à l'heure, à des professionnels de la santé également. Est-ce qu'ils répondent bien à l'appel?
Oui, tout à fait. Le vendredi est essentiellement, en fait, ça a été la surprise l'an passé, parce qu'on l'an passé, c'était notre première édition, donc on savait pas trop à quoi s'attendre non plus. Le vendredi, c'est vraiment un petit peu plus professionnel au niveau des visiteurs. Donc, cette année, on a ciblé un petit peu plus nos conférences par rapport à ça, au niveau plus professionnel le vendredi, pour desservir un petit peu plus cette clientèle-là. Le samedi, j'ai l'impression que c'est un peu un beau mélange de tout ça. Vraiment, c'est notre plus grosse journée. Vendredi, samedi, c'est nos plus grosses journées.
Joanne Leduc, sur les 3500 visiteurs de l'an passé, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là simplement par curiosité parce que, bon, ils n'ont pas d'enfants autistes, ne travaillent pas avec cette clientèle-là, mais avaient envie d'en savoir davantage sur le TSA?
Oui, c'est sûr que ça, c'est notre troisième objectif. Donc, au niveau des visiteurs, éventuellement, on veut aller chercher beaucoup plus de gens qui viendraient juste s'informer. On en a vu. Il y en a certaines personnes qui sont venues me rencontrer après et me dire « Wow, moi, je suis ici simplement par curiosité parce qu'on en côtoie de plus en plus dans le milieu de travail. Nos enfants en côtoient. J'ai fait comme « Wow, OK, c'était pas notre but premier l'an passé. C'est sûr, c'était la première année. Mais ça a été une belle surprise. Donc, on invite les gens à venir s'informer. » parce que d'ailleurs, on a les polices, la SQ avec nous un peu à cet effet-là. Ces gens-là viennent prendre aussi le pouls pour voir, eux, ils peuvent donner un côté sécurité aussi, mais en même temps, ces gens-là, ils viennent puis ils veulent être là pour justement, eux aussi, s'informer sur ce que c'est l'autisme. Il va falloir que toutes les ressources, là, ambulanciers, pharmaciens, soient au courant de l'autisme et on s'en portera mieux, juste tout le monde, grâce à ça. Donc, oui, on invite les gens à venir, puis évidemment, on a des superbes boutiques. Pas besoin d'avoir un enfantiste, là. Même les parents ont triple sur les jouets spécialisés ou les produits spécialisés, donc ça satisfait n'importe quel enfant.
Bien, c'est un objectif qui est louable et pertinent, je pense, Joanne Leduc, lorsque l'on voit un petit peu les chiffres. En 2015, plus de 7000 enfants québécois ont reçu un diagnostic du trouble de spectre de l'autisme. Ça veut dire qu'à un moment donné ou l'autre de la vie, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'épicerie, dans la rue, on est amené à côtoyer des gens qui vivent avec ce trouble. Et plus on en sait, finalement, mieux on dialogue et on interagit.
Bien, tout à fait. On est gagnant d'avoir, de connaître, comme on est gagnant de savoir plusieurs langues dans une vie, on est gagnant de connaître ce que c'est l'autisme. Parce que c'est vrai qu'au départ, comme toute différence, ça peut faire un peu peur pour certaines personnes. Mais il faut pas, ces gens-là sont extraordinaires. Il faut dire qu'ils sont pareils comme nous, mais à quelques différences près. Leur fonctionnement n'est pas tout à fait le même, mais sur bien des choses, on est tous humains, on est tous égaux là, là-dessus. Donc, on gagnerait à les côtoyer parce qu'en fait, ils nous ramènent à l'essentiel, chose qu'on a un petit peu oubliée, nous autres, les neurotypiques, comme ils nous appellent, ou les non-autistes. On a oublié cette petite facette-là d'être bien et libre dans nos têtes. On est un petit peu envahis par plein de choses nous-mêmes. Donc, je pense que c'est vraiment beau de les voir nous ramener à la source et à apprendre à re-regarder. Ça se dit-tu, ça? Re-regarder. Regarder à nouveau, disons.
Oui.
Des choses qu'on ne voyait plus. Ne serait-ce que dans la nature, mon fils s'émerveille sur une ombre projetée sur un mur. Je veux dire, on oublie ça complètement, nous autres. Là, on n'a comme plus ce temps-là, mais on passe à côté de bien des choses.
Je le disais tout à l'heure, un large éventail de conférences et également d'exposants. On va parler de nutrition, on va parler de littérature, de musique, on va parler même de synergologie. Donc, extrêmement vaste la proposition que vous offrez au cours de ce salon-là, Joanne Leduc. Je le rappelle, le salon de l'autisme TSA du Québec. Rapidement, parce qu'il reste très peu de temps, est-ce que vous avez un coup de cœur? Je sais que souvent, on n'ose pas, mais bon... Est-ce que vous avez vraiment un coup de cœur?
Le coup de cœur qu'on va donner, c'est vraiment notre conférencière invitée, parce qu'en fait, tous les conférenciers qui sont là, les exposants, c'est nos coups de cœur, sinon ils ne seraient pas là, évidemment. Mais disons qu'on est chanceux d'avoir Guylaine Gay avec nous.
Elle est fantastique.
C'est une super madame à venir rencontrer le samedi. Puis le coup de cœur, c'est le salon, c'est les exposants. C'est comme une grosse bulle, là. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que c'est extraordinaire. C'est pas plus un, pas moins un, c'est
l'ensemble. Du 2 au 4 octobre, donc, salon de l'autisme TSA.com. Ben, vous y serez, j'imagine, Joanne Leduc, avec vos enfants?
Le plus jeune, ça va être facile.
On ira vous saluer dans ce cas-là, Joanne Leduc. Merci beaucoup.
Merci
bon
vous.
Salon.
OK, au revoir.
Au revoir. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche. Merci d'avoir été là. Demain, c'est vendredi. Yeah! Mais nous, on sera là à 14h. Soyez-y, portez-vous bien. Bye-bye.